Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. La lutte contre les djihadistes en Égypte. 14 djihadistes présumés ont été tués aujourd'hui lors d'opérations des forces de sécurité dans la péninsule du Sinaï. Et ce, au lendemain d'un attentat qui a coûté la vie à 8 policiers dans la région. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministère égyptien de l'Intérieur. L'attentat de mercredi, revendiqué par le groupe État islamique, avait visé un barrage de la police à l'ouest d'Al-Arish, chef-lieu du Nord Sinaï, dans le nord-est de l'Égypte, au début de la fête musulmane de l'Id el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Les autorités égyptiennes avaient alors fait état de 5 terroristes tués et d'un certain nombre d'assaillants qui avaient pris la fuite. Conflit en Libye, raid aérien des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar ce jeudi contre le seul aéroport fonctionnel de Tripoli, la capitale libyenne. Après avoir annoncé dans un premier temps que l'attaque avait visé la piste d'atterrissage, l'aéroport de Mintiga a précisé plus tard sur sa page Facebook officielle que la frappe était loin de la piste et que tout fonctionne normalement. Mitiga est une ancienne plateforme militaire utilisée pour le trafic civil en remplacement de l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé par des combats en 2014. Mouvement de contestation au Soudan maintenant. L'Union africaine a annoncé ce jeudi sa décision de suspendre avec effet immédiat le Soudan de l'Organisation panafricaine jusqu'à la création d'une autorité civile de transition dans le pays. L'UA a suspendu avec effet immédiat la participation de la République du Soudan à toutes ses activités, et ce jusqu'au rétablissement effectif d'une autorité civile de transition qui est le seul moyen de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle, a souligné le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, l'Union africaine, sur son compte Twitter. Le Conseil imposera automatiquement des mesures punitives sur les individus et les entités qui ont empêché l'établissement d'une autorité civile, a précisé lors d'une conférence de presse le Sierra Leonais Patrick Kapua, président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Depuis le début de la crise, l'UA plaide pour un transfert rapide du pouvoir des militaires aux civils et avait plusieurs fois menacé de suspendre le Soudan de l'organisation. Au Soudan même, le gouvernement soudanais a cherché ce jeudi à minorer l'ampleur de la répression sanglante des derniers jours contre le mouvement de contestation, alors que les contestateurs, eux, soulignent leur détermination à poursuivre la lutte pacifique contre le pouvoir militaire malgré la peur liée à l'escalade de la violence. Dans un premier bilan officiel, le ministère de la Santé a affirmé via l'agence Suna que le bilan des victimes de la répression depuis lundi n'avait pas dépassé 46, démentant ainsi les chiffres relayés jusque-là par un comité de médecins proches de la contestation. Mais selon ce comité, au moins 108 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées en 3 jours. Pour la plupart, dans la dispersion brutale du sit-in devant le quartier général de l'armée lundi à Khartoum. Plus de détails avec Yacouba Ouédraogo.
Parmi les morts, 61 ont été comptabilisés dans les hôpitaux et 40 ont été retrouvés dans les eaux du Nil, selon des médecins proches des manifestants. Le peuple soudanais n'est ouvert ni aux négociations ni à ce conseil militaire qui tue, a indiqué Amjad Farid, porte-parole de l'association des professionnels soudanais, fer de lance de la protestation. Dans un message lu à la télévision nationale, le chef du conseil militaire Abdel Fattah al-Burhan a dit hier regretter les événements et assurer que le conseil reste ouvert aux négociations sans restriction. Les négociations sont suspendues depuis le 20 mai, chacun refuse de céder à l'autre la direction de la transition politique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Sénégal, le président Macky Sall a dénoncé une tentative de déstabilisation 3 jours après les accusations de corruption de médias étrangers contre l'un de ses frères. Le point avec Eric Maniakiza.
Nous savons que là où il y a du pétrole, certains vont tenter de déstabiliser le pays. Le gouvernement va poursuivre cette affaire, a déclaré hier le président Macky Sall après la prière de la Corité au Eid al-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Je tiens à ce que la vérité soit rétablie, a-t-il ajouté, sans citer le nom de son frère. Toutefois, nous n'accepterons pas de fausses accusations, a averti le chef de l'État qui réclame des preuves, promettant de sanctionner s'il faut sanctionner. La BBC a affirmé dans un reportage que la société de l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timmis avait secrètement versé une prime de 250 000 dollars à AgriTrans, une société contrôlée par Aliou Sall, frère cadet du président sénégalais. L'ancien journaliste Aliou Sall a qualifié de totalement fausses ces informations et a promis de poursuivre en diffamation la chaîne publique britannique.
Au Tchad, suite aux affrontements intercommunautaires dans la province du Wadaï et dans le Grand Mayo Kébi, qui ont fait une centaine de morts, le président Idriss Déby Itno a annoncé son intention d'envisager plusieurs options pour situer les responsabilités. Selon le chef de l'État, il faut avoir recours à la cour martiale et procéder à la révision totale de la DIA, ou prix du sang, pour contraindre les différentes communautés à vivre en paix. Voici des réactions d'organisations de la société civile et de personnalités politiques dans un reportage d'André Kodmajingar, le correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
La cour martiale que le président Déby veut ressusciter est une juridiction d'exception qui fait recours à l'application de la peine de mort en cas de crime dont les Tchadiens ont exigé sa suppression à la Conférence nationale souveraine de 1993. Un moratoire sur la peine de mort qui est une voie légale vers son abolition a été ratifié par le Tchad, mettant ainsi en voyelle cette juridiction. Pour le président Déby, cette option peut être une alternative pour le règlement des conflits entre les communautés qui sont en train de saper les bases de l'unité nationale. Le sang des Tchadiens a assez coulé et nous devons impérativement mettre un terme à cette cruauté humaine, a-t-il dit. Pour Dobian Asingar, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Idriss Déby n'a pas besoin d'une cour martiale pour régler les cas de conflits qui sont commis dans le pays.
Le président de la République doit savoir que dans ce pays-là, les conflits agriculteurs-éleveurs, les conflits intercommunautaires font chaque jour des dizaines, voire des centaines de morts. Il fallait régler ce problème avec les juridictions qui sont déjà là sur place. On ne l'a pas fait, on veut maintenant ressusciter la cour martiale, mais dans ces conditions-là, il faudrait que le président de la République sache que c'est peut-être la moitié des Tchadiens qu'il va passer par les armes.
Le président de l'Union sacrée pour la République, François Ndiékombé, estime pour sa part que si cette intention est traduite en acte, c'est une fuite de responsabilité du président Déby.
Si le président n'est plus capable de gouverner le Tchad, qu'il cède la place à d'autres catégories de Tchadiens pour faire leur preuve. Ce n'est pas le rétablissement de la cour martiale qui va résoudre le problème des Tchadiens. Ce n'est pas parce qu'on se rend compte que des parents du président ont été impliqués dans des massacres qu'on va dire non, on n'applique plus la DIA. Il faudrait donc traiter les citoyens sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, c'est l'implication des autorités administratives, des autorités traditionnelles dans les conflits qui créent toutes ces tensions-là aujourd'hui dans le pays. Les mêmes qui sont au pouvoir arment les éleveurs contre les cultivateurs, etc. Et lorsque les problèmes éclatent, c'est toujours sanglant.
Le secrétaire général du groupement socio-professionnel du mouvement patriotique du salut parti au pouvoir, Jean-Bernard Padaré, appelle les acteurs de la société civile et les responsables des partis politiques de l'opposition à la retenue.
Nous ne disons pas que la justice ordinaire n'arrive pas à trancher le problème, mais nous pensons qu'il faut sortir le grand remède. C'est un avertissement. Si la situation perdure, on sera contraint de rétablir la cour martiale. Cet avertissement doit être pris au sérieux parce que la paix dans notre pays n'a pas de prix.
André Kodmajingar Ndjamena, pour VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant, plus de 144 000 migrants ont été arrêtés à la frontière sud des États-Unis en mai, soit une hausse de 32% par rapport au mois d'avril. C'est ce qu'ont annoncé les gardes-frontières américains, les précisions d'Irénée Armanoumbo.
Parmi eux, plus de 57 000 sont des mineurs, dont près de 12 000 ont voyagé seuls, précisent les autorités américaines. Nous sommes en urgence absolue, le système ne fonctionne plus, a déclaré John Sanders, responsable par intérim de la police aux frontières. Par ailleurs, les données démographiques des migrants interpellés ont radicalement changé. Auparavant, ils étaient principalement des hommes, souvent originaires du Mexique, venant illégalement travailler aux États-Unis. Mais en mai, près de 90 000 des migrants appréhendés étaient en famille, 12 000 mineurs non accompagnés et seulement 43 000 adultes selon la police frontalière. Maintenant, la grande majorité des migrants viennent du Honduras, du Salvador et du Guatemala, des pays parmi les plus pauvres et les plus violents. Et ils voyagent en groupe ou en caravane. Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées la semaine dernière, ont indiqué les gardes frontalières. Ils signalent également que 117 Africains originaires du Congo, de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Cameroun ont été interpellés le mois dernier à la frontière sud des États-Unis.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.